Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Le Festival international Nuit d'Afrique, le plus grand rendez-vous des musiques du monde, est de retour à Montréal pour une 31e édition. Plus de 700 artistes du monde entier viennent à votre rencontre du 11 au 23 juillet. Parmi eux, ne manquez pas le célèbre couple malien Amadou et Mariam, Ben l'Oncle Soul, qui revisite les classiques de Frank Sinatra sur des beats reggae, hip-hop et soul. Les DJ de Canicule Tropicale et le célèbre artiste Quantique chaufferont la salle avec leur platine. Découvrez la programmation complète sur festivalnuitdafrique.com.
Hey, les shows de ruelles reviennent cette année dans la ruelle Gaboury d'Hochelaga. Le concept est simple. 5 jeudis soirs avec des shows d'artistes québécois gratuits, de la bonne bouffe et de la bonne bière. Le 29 juin, à la Claire Ensemble. Le 13 juillet, Fred Fortin. Le 27 juillet, Les Deluxe. Le 10 août, Xavier Caféine. Et le 19 août, un artiste surprise. Ça va être un show raide d'Hochelaga cet été, alors manque pas ça!
Le Festival Diapason, présenté par SiriusXM, vous invite du 6 au 9 juillet à venir fêter avec Bernard Adamus, Soons, Fred Fortin, avec podcast The Sadies, Chocolat, Lydia Kepinski, Blood and Glass, Émile Bilodeau et bien plus. 4 jours de musique complètement gratuite dans le quartier Sainte-Rose à Laval. En nouveauté cette année, le village Diapason et sa scène découverte, des spectacles surprises avec les croisières Sirius sur la rivière des Mille Îles et les retours de camions de bouffe. Utilisez les navettes gratuites disponibles à partir du terminus Montmorency. Le Festival Diapason, du 6 au 9 juillet.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonjour et bienvenue à la Faute aux médias du 4 juillet 2017. Aujourd'hui, c'est Marie Chabot-Johnson qui va être au microphone parce que notre ami Émilien, qui est habituellement au micro, est présentement au Chili. Donc, on espère qu'il va nous rapporter quelques reportages, mais sinon, on lui souhaite du bon temps. Et j'ai avec moi deux collaborateurs en studio, Gabriel Pelletier et Étienne Tardif.
Bonjour. Bonjour.
Aujourd'hui à l'émission, on va vous parler un peu des thèmes des commémorations. On sait que depuis 2 mois, on vit un peu au rythme des anniversaires. On a eu le 375e anniversaire de Montréal, la Saint-Jean-Baptiste la semaine dernière, puis là, on revient justement du congé du 1er juillet. Et à l'émission, on va aborder un peu toute la responsabilité qu'il y a derrière les commémorations et comment on célèbre ça dans la diversité, par exemple. Donc, pour commencer, on va y aller avec la festivité qui était la plus proche de nous, celle du 150 ans du Canada.
Alors, bonjour tout le monde. Le 1er juillet, nous avons célébré le 150e anniversaire du Canada. Célébration haute en couleur à travers tout le pays. D'un océan à l'autre, l'argent coule à flot au même rythme que le pétrole dans les pipelines. Pour cet anniversaire, le gouvernement n'a pas lésiné sur les dépenses avec un modeste budget de 50 millions de dollars, soit le double de ce qui était prévu à l'origine. Après tout, rien n'est trop beau pour célébrer l'un des plus meilleurs pays au monde, tel que nous apprenait l'ancien premier ministre Jean Chrétien et accessoirement responsable du système de financement inégal révélé lors de la commission Gomery. Cela dit, que commémorons-nous exactement lors de la fête du Canada? Quelle valeur, quel idéal commun, quelle idéologie glorifions-nous le 1er juillet? Pour en connaître la réponse, il semble tout à fait normal et approprié de se tourner vers notre dévoué premier ministre Justin Trudeau. En ce sens, ce dernier est allé d'un vibrant discours à l'occasion du 150e de la fête du Canada. Évidemment, je vous ai épargner le discours tout entier et je vais m'attarder à quelques passages clés ô combien savoureux. Le premier ministre débute son allocution avec une phrase hautement chargée de contenu. Nous nous rassemblons en tant que Canadiens pour célébrer les réalisations de notre pays, réfléchir à notre passé ainsi qu'au moment présent et tourner notre regard vers l'avenir avec assurance. Par réfléchir à notre passé, est-ce qu'il est question du massacre des milliers d'Amérindiens, de la pendaison de Louis-Riel, de la crise d'octobre ou encore du rapatriement unilatéral de la Constitution? Effectivement, il y a matière à réfléchir. Par moment présent, est-ce qu'il a en tête son idéal progressiste marqué sur les questions environnementales et plus particulièrement en matière de production pétrolifère? Après tout, la transition énergétique demande d'importants moyens financiers. Ou peut-être que ce dernier pense à sa politique de défense éminemment pacifique, éminemment tout comme l'augmentation du budget militaire de 70% en 9 ans, soit de 18,9 milliards à 32 milliards. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Pourquoi il finit ce premier paragraphe avec « Tourner notre regard vers l'avenir », car regarder derrière et autour de nous semble être nettement moins glorieux. Poursuivons un peu plus loin, Justin Trudeau dit « L'histoire du Canada remonte à bien avant. La Confédération à ceux qui ont été les premiers à travailler, aimer et bâtir leur vie ici. » Voilà une occasion en or pour le premier ministre de reconnaître l'importance des différentes nations amérindiennes dans l'histoire du Canada. Toutefois, ce dernier y va plutôt d'un vibrant hommage à la vision dont ont fait preuve entre autres Sir George-Étienne Cartier et Sir John A. Macdonald. Une vision tout à fait digne de cet hommage. Quand ce n'est pas n'importe qui peut se targuer d'avoir installé les bases d'un pays sur des considérations économiques. Et ici, en l'occurrence, la construction d'un chemin de fer transatlantique construit à même le sang d'immigrants et sur les terres ancestrales des premiers peuples qui vivaient avant d'être enfermés dans des sordides réserves. Il est vrai que le travail de George-Étienne Cartier doit être souligné en ce 150e anniversaire de la nation canadienne. Après tout, il serait honteux de ne pas révéler que ce dernier est décidé de sagement entrer dans les après la révolte des patriotes et pour contribuer au développement économique et pour développer au courant économique du Bas-Canada grâce à la compagnie ferroviaire du tronc. Aujourd'hui, nous avons choisi de ne plus nous souvenir des nombreuses accusations de favoritisme et de collusion qui ont marqué sa carrière, et ni l'image de ses anciens frères d'armes se balançant au bout d'une corde aux couleurs de la rose. Pour ce qui est de Sir John A. Macdonald, sa contribution au Canada est tout aussi importante, voire centrale, pour comprendre le Canada d'aujourd'hui, et ce, surtout en ce qui a trait à la question autochtone. En tant que premier ministre et ministre des Affaires indiennes, Macdonald est responsable de la politique concernant les autochtones, dont le développement du système des pensionnats indiens et les mesures de plus en plus répressives contre les peuples autochtones de l'Ouest. Pour Macdonald, la construction du chemin de fer canadien pacifique passe presque avant tout, même avant l'honnêteté, le respect des droits de la personne, la compassion et j'en passe. Selon l'historien James Datchuk, les autorités canadiennes ont privé les autochtones de nourriture jusqu'à ce que ceux-ci s'installent dans les réserves, question de libérer les terres où le chemin de fer devait passer. Des milliers d'autochtones ont ainsi trouvé la mort. Donc, merci à la vision de ces deux grands hommes qui a mené à la Confédération, une union qui a marqué un point de tournant pour le Canada. Toujours dans le discours offert par l'honorable Justin Trudeau, ce dernier aborde finalement la question autochtone à différentes reprises. Par exemple, il dit « Les peuples autochtones ont subi l'oppression pendant des siècles. En tant que société, nous devons reconnaître les erreurs du passé. En empruntant ce nouveau chemin, nous continuerons à cultiver notre relation de nation à nation. » Peut-être suis-je trop pessimiste, mais j'ai plutôt l'impression que le nouveau chemin est celui emprunté par TransCanada, Enbridge et Kinder Morgan. Nous avons changé les chemins de fer pour des chemins pétrolifères pavés de pipelines. Si vraiment le Canada reconnaît ses erreurs, pourquoi continue-t-il d'imposer ses visions économiques aux nations autochtones qui ne veulent pas de l'oléoduc sur leur territoire? Pourquoi existe-t-il encore des réserves où les conditions humaines sont misérables, où le désespoir déborde du réservoir créé par ces colonisateurs sans considération envers les Amérindiens? Pourquoi les grands centres urbains canadiens regorgent d'Amérindiens ayant de lourds problèmes d'adaptation? J'imagine que trop faire de selfies n'aide pas à choisir le bon chemin, à moins de prendre un selfie avec le devant derrière. Il y a matière à réflexion. Au risque de vous décevoir, je ne pourrai pas répondre dans cette chronique à la question de départ. Que célébrons-nous lors de la fête du Canada? Toutefois, j'aimerais pointer du doigt les événements qui ont mené à la création du Canada, les dites valeurs canadiennes. Il faut se questionner, remettre en question, être critique et ne jamais prendre pour garant ce qui nous est enseigné dès le plus jeune âge. Le Canada, terre des droits et libertés, mosaïque culturelle et gardien de la paix, vraiment? Pour terminer, je vous laisse avec une petite citation de Pierre Falardeau. Dans ce pays fictif, le plus meilleur au monde, on peut bien nous empêcher de tourner les films qu'il faudrait tourner, mais on ne peut pas, pour l'instant du moins, nous empêcher de montrer les films qu'il faudrait montrer. Mais merci beaucoup et joyeux 150e anniversaire.
On
Merci Étienne pour cette montée de lait, si je peux dire, qui est pas très très fédéraliste. Mais juste avant, pour pouvoir donner la parole à l'autre, comme on sait si bien le faire dans les médias, j'aime poser la question à nos autres collaborateurs, qui est en fait juste Gabriel pour l'instant et moi-même, à savoir, le Canada, qu'est-ce que ça représente pour vous? On a vu un peu la position d'Étienne, mais pour toi Gabriel, qu'est-ce que ça représenterait le Canada?
Oh boy, c'est pas avec moi qu'il faut y avoir une diversité des points de vue là-dessus. Non, mais ce que j'en dirais, c'est que le Canada, comme n'importe quel État au monde, a le droit de fêter un 150e anniversaire. J'y enlèverai jamais ça. Ceci étant dit, ça veut pas dire qu'il faut faire du washing, du whitewashing plus particulièrement. Ça veut pas dire qu'il faut regarder l'histoire de manière trop enthousiaste ou naïve en se disant qu'on n'a pas fait ce qu'on a fait. Je veux dire, le Canada est quand même responsable d'une politique de génocide culturel auprès des Autochtones qui s'est fait sur des décennies. Demeure que le statut du Québec est encore précaire, il l'a toujours été à travers le Canada. Ça ne veut pas dire que le Canada n'a pas fait de grandes choses à l'international, mais c'est sûr que mon 150e, il est un petit peu amer.
Oui, bien en fait, moi, ça serait un peu une réflexion que je voudrais vous amener sur le fait que jusqu'à quel point l'histoire et le passé sont obligatoirement liés à la commémoration. Est-ce qu'on peut commémorer tout en désapprouvant le passé ou est-ce qu'on est intimement lié à celui-ci? Est-ce qu'on est responsable dans notre commémoration?
C'est sûr que je pense qu'on est intimement lié, c'est normal. L'histoire est une partie intégrante d'une nation. Une nation sans histoire n'est pas une nation. Alors je crois que c'est vraiment important de mettre l'accent sur l'histoire. Pas pour ressasser les problèmes du passé. Je veux dire, on peut pas payer pour les erreurs de nos ancêtres, mais après, il faut être capable de les avouer. Justin Trudeau qui dit justement qu'il est prêt à dire pardon aux Amérindiens pour certaines choses, mais de l'autre côté, on voit comment il agit en ce moment. D'ailleurs, avec les communautés amérindiennes, autochtones, et particulièrement ceux qui sont sur le territoire de certains pipelines, puis je suis désolé, moi je vois aucun remords ici, puis je vois plutôt une parole d'un côté et une action de l'autre. Alors, l'histoire compte beaucoup parce que l'histoire nous aide à rappeler aussi qu'il existe d'autres nations. Puis je pense que c'est dommage de parler d'histoire, de commémorer quelque chose, mais à la fois commémorer une partie de cette histoire-là et non la totalité de l'histoire.
C'est sûr que si c'était quelque chose qui était du passé, je pense que ce serait une autre chose. Mais présenter des excuses pour une situation qui continue d'exister chez les peuples autochtones, moi pour moi c'est de l'hypocrisie, puis au pire c'est dangereux. Parce que je veux dire, ça laisse l'idée puis l'impression que le problème est réglé, que en ce moment on vit dans le plus meilleur pays du monde, à la fois pour justement nous et pour les peuples autochtones, mais c'est complètement faux. Je veux dire, il y a encore une disproportion entre la population carcérale, entre les blancs et les autochtones. Mm-hmm. Il y a encore un problème d'itinérance systémique à Montréal qui cible les Innus, les Inuits et les autochtones. Il y a encore des réserves qui vivent dans des conditions qui sont dignes de pays du tiers-monde, dans le nord de l'Ontario ou dans certaines régions du Québec. C'est sûr que commémorer un État, c'est important. Commémorer nos réalisations, c'est important. Mais il faut faire attention parce que du nation building, ça peut se faire sur le dos de quelqu'un. Mmh. Et ça, c'est de faire attention avec ça, de s'assurer que justement notre passé, oui, on le reconnaît, mais toutes les nations au monde ont un passé qui a une certaine connotation négative. Et quand il le commémore, il doit se le souvenir. C'est pas parce qu'on aime pas la France qu'on peut pas se souvenir, par contre, du régime de Pétain pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou c'est pas parce qu'on aime pas l'Allemagne qu'on peut pas se souvenir du régime nazi. Ou c'est pas parce qu'on aime pas l'Espagne qu'on doit oublier nécessairement les exactions contre les tribus Maya ou Aztec. Chaque État a ce passé-là. Il faut le reconnaître, faute de quoi, on peut être porté à le répéter.
Absolument. Il y avait un truc que j'ai pas pu apporter dans ma chronique, mais j'aimerais aborder maintenant. C'est vraiment le fait de dire qu'il y a certaines nations qui se sont fondées avec le temps sur un ciment culturel, sur un ciment linguistique, sur plusieurs attraits, alors que le Canada, j'ai plus l'impression que le Canada s'est fait par, premièrement, une peur de l'envahisseur, deuxièmement, pour des raisons économiques. Je parlais du chemin de fer tout à l'heure, mais je suis sûr que si on va chercher un peu, on creuse un peu, cette histoire est encore plus grave. C'est vraiment de dire qu'il y a des intérêts économiques qui ont mis de l'avant la création de la Confédération. Et pour moi, un pays qui se crée sur des valeurs économiques et des valeurs de peur, c'est un pays qui me semble avoir des bases très très fragiles. Et après, on l'a vu avec l'histoire aussi, le Québec souvent sa place a été remise de côté, sa voix a été mise de côté. En fait, je trouve ça un peu triste de créer un pays puis après de dire les valeurs canadiennes, mais en fait qu'est-ce que sont les valeurs canadiennes, tu sais? Déjà là, on pourra en discuter durant des heures. Est-ce que vraiment des valeurs canadiennes ou c'est des valeurs internationales, c'est quoi exactement? Alors bref, je pense que oui, toute nation qui reconnaît est une nation, mais après on
pas les mêmes racines, puis en même temps, si on creuse vers les racines, on peut comprendre aujourd'hui les problèmes qu'on voit à chaque jour.
Historiquement, le Canada a été fondé pour se protéger d'une invasion continentale par les Américains, a été fondé dans le but de délester la métropole d'un poids économique, de créer un allié en Amérique du Nord, a été créé pour unir des provinces qui, fondamentalement, avaient strictement rien en commun, à part éventuellement un chemin de fer. C'est certain que le Canada, c'est un peu une bébite particulière dans le sens où est-ce que l'identité canadienne, telle qu'on la conçoit, elle apparaît seulement à partir des années 60, des années 70, ou à la limite avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais, c'est vraiment Trudeau, là, on s'entend, avec les fameuses institutions canadiennes qui ont été faites par Trudeau, justement. J'ai dit Trudeau ou Trudeau, je sais pas.
Un peu des deux.
Ah, je me mélange toujours un peu vite de sens, les deux. Mais j'essaie toujours de voir un peu, tu sais, de faire le pour et le contre, parce que je veux dire, en tant que Québécois, évidemment, je suis biaisé. En tant qu'indépendantiste, je suis encore plus biaisé, mais après j'essaie de quand même de faire la part des choses. Puis quand j'étais dans l'Ouest, je vais dans l'Ouest, puis j'ai pas l'impression de retrouver des valeurs canadiennes. Souvent j'ai l'impression de rencontrer des gens avec des valeurs américaines, comme moi je me sens aussi américain au niveau du continent de l'Amérique. Mais quand on arrive au Canada, à chaque fois j'ai l'impression que c'est une culture qui s'est faite en rapport de quelque chose. Justement, l'espèce des institutions canadiennes, Trudeau, s'est faite par rapport à une montée du nationalisme au Québec. Alors il veut créer une espèce de contre-identité, et j'ai pas l'impression que ça vient naturellement. J'ai l'impression que c'est une espèce de culture qui vient parce qu'elle est poussée, parce qu'elle est obligatoire. Après, je suis pas un spécialiste en la matière, mais c'est l'impression qui me vient a priori.
C'est une impression qui avait été partagée justement par des jeunes de mon âge à peu près, qui étaient de première ou deuxième, troisième vague d'immigration. Puis c'est une impression qui était partagée sur l'idée qu'on était plus à la défensive, autant au Québec qu'au Canada. Puis en fait, moi, pour clore un peu cette discussion-ci, si on veut pouvoir avoir le temps de passer à d'autres célébrations, ma réflexion, ça serait, en fait, je la partage, sur d'où viennent cette idée-là d'identité canadienne, de valeur canadienne. On l'a vu par Trudeau père, Trudeau fils, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité dans les médias, justement, de nous construire le Canada comme le bon gentil, ou comme, justement, à l'étranger, de plus en plus on voyage, plus on se fait parler de notre premier ministre comme étant un féministe qui veut ouvrir aux peuples autochtones, qui est pour les droits des LGBT, puis ça construit un peu l'image du Canada. Est-ce qu'il y a un rôle des médias là-dedans, en l'idée du libéral qui est gentil, qui est pour la paix, versus qu'est-ce qu'on avait avant, qui était le conservateur, qui représentait pas vraiment l'identité canadienne?
C'est sûr que Justin Trudeau, à la base, sans dire qu'il doit tout à la chance, il est quand même très chanceux. Parce qu'il apparaît un moment où est-ce que, non seulement il y a un clivage entre lui et son prédécesseur qui est assez important, Stephen Harper n'était pas vendeur à l'international, il l'a jamais été, et en même temps, il arrive avec un clivage avec son homologue américain, Donald Trump, où est-ce que justement il peut se montrer comme étant la voix progressiste en Amérique du Nord, la voix accueillante en Amérique du Nord. Et ça, c'est très profitable pour lui. Mais fondamentalement, c'est sûr que nos médias jouent un très grand rôle là-dedans, et les médias internationaux aussi, parce que Trudeau, c'est une bête politique très intéressante pour des médias internationaux. Il passe excessivement bien l'entrevue, sa vie publique est contrôlée au centimètre près, et dans ce sens-là, c'est sûr que c'est facile pour les médias internationaux de tomber dans le piège de « voici le Wonder Boy, le Golden Boy canadien », quand fondamentalement, dans plusieurs secteurs d'activité internationale, c'est business as usual entre l'administration Harper et l'administration Trudeau.
Absolument, je suis complètement d'accord, mais en même temps, de dire que Harper ne représentait pas les valeurs canadiennes, je veux dire, c'est un peu faux à quelque part, parce que il a quand même été élu de 2006 jusqu'à 2016. Je veux dire, il représente bien les valeurs de quelqu'un. Et puis ces personnes-là, ben bon, ça a été majoritairement dans l'Ouest. Même aux dernières élections, on l'a bien vu, il y a un clivage qui est assez important. Après, je crois que c'est aussi le Canada, c'est les valeurs canadiennes, c'est aussi ça. Faut pas mettre ça de côté, mais moi, personnellement, je crois vraiment que les valeurs canadiennes, on parle des médias qui vont mettre ça de l'avant, ben Radio-Canada a été construit exactement pour ça, pour créer les valeurs canadiennes, pour donner la météo de en ouest, c'est comme si de savoir quel temps il y avait faire à Vancouver, ça pouvait nous importer dans l'est. Tu sais, ou personnellement, moi je m'en fous un peu. Mais CBC veut quand même, ou Radio-Canada veut quand même le démontrer, faire comme si on était un pays, on était un ensemble. Et je pense vraiment que c'est là que les institutions vont prendre une place prédominante au Canada, parce que elles vont servir de ciment. Puis Trudeau père le savait très bien, et c'est pour ça qu'il a investi des millions et des millions de dollars là-dedans.
Bon, ça, on aura eu la réflexion sur le Canada. Maintenant, je nous invite à avoir une autre réflexion avec une autre montée de lait de notre collaboratrice Corinne Asselin, qui, tout droit de son Lac Saint-Jean natal, nous fait parvenir une chronique sur son malaise concernant les festivités de 2017, autant elle de Montréal, de Québec ou du Canada. Donc, je laisse la parole à Corinne.
2017, voilà une année festive, scandent nos dirigeants. 150e du Canada, 375e de Montréal. On semble nous dire que c'est de notre devoir d'avoir le cœur à la fête cette année. Oubliez pour un instant la montée des populistes, de l'autoritarisme et de l'extrême droite, les tensions raciales, la guerre et la famine dans le monde. Au Canada, nous, on est en fête. Mais qu'est-ce qu'on fête exactement? Au fédéral, il ne s'agit pas de la formation d'un État indépendant, mais plutôt les 150 ans de l'Acte d'Amérique du Nord britannique qui visait à promouvoir les intérêts impériaux du Parlement anglais. Et non, le Canada n'est pas devenu un pays en 1867. Son statut de colonie a plutôt été entériné sur les terres volées aux nations autochtones. Et ce n'est que le début officiel des horreurs pour ces peuples, horreurs qui se poursuivent encore aujourd'hui, comme nous le rappelle si bien Roméo Saganache. Canada 150, ce n'est qu'une année de revictimisation, nous dit-il. Comme si la colonisation n'avait pas suffi, il faut maintenant remuer le fer dans la plaie. Pendant ce temps, Trudeau se vante que nous soyons le premier État post-national, mais on nous inonde de drapeaux rouges à la sauce nationaliste pour l'occasion, au coût de 500 millions de dollars puisés dans les coffres de l'État pour faire la promotion de ce beau grand pays. On dirait le scandale des commandites 2.0, si vous voulez mon avis. Mais ne parlez surtout pas de réouvrir la Constitution canadienne à laquelle ni le Québec ni les peuples autochtones n'adhèrent, faut-il le rappeler. Trop compliqué, et notre beau Justin Trudeau national a été intransigeant sur la question. Pour la majorité des Québécois, de toute façon, vivre dans un vide constitutionnel, c'est pas bien grave. Parce que Bonneau chantait sur la colline parlementaire à Ottawa le 1er juillet et que le prince Charles nous a même fait l'honneur de sa présence royale pour l'occasion. Enfin bref. J'ai participé au 400e de Québec. C'était en 2008, j'avais 15 ans et j'ai célébré comme plusieurs la naissance de la toute première ville francophone en Amérique du Nord. Montréal, il te manquait 25 ans pour avoir un chiffre rond, tu y étais presque. Des âges correspond un peu plus à l'idéal type du fêteur par excellence de sa métropole que de celui de ce pays qui n'a jamais vraiment été le mien. Cette ville que j'habite depuis maintenant 5 ans et dont je suis si fière. Pourtant, j'ai l'impression que les festivités organisées pour l'occasion s'adressent pas vraiment à nous. Au plus, je suis un témoin de l'effervescence orchestrée par les subventions pour flasher et attirer les touristes internationaux. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de tels prétextes pour investir dans notre ville? C'est que pour mousser son attractivité extérieure et conséquemment son rendement économique. Tellement de projets qu'il devient difficile pour le citoyen de suivre le rythme, encore plus de donner son approbation. Le train passe sans avoir vraiment crié gare et c'est maintenant qu'il faut le prendre, sinon, ben tant pis. La facture s'élève à plus $1 milliard. Attends, je pensais qu'on était en période d'austérité. 125 millions pour les traditionnels spectacles qui se ressemblent tous plus ou moins, et pour l'illumination d'un pont à l'allure bling-bling. 70 millions pour raménager le vieux port en pensant à nos chers touristes qui débarquent des gros bateaux de croisière, alors qu'on vit sur une île qui n'a jamais eu d'accès à l'eau. En tout cas, on compte pas les dépenses pour le fla-fla. Je parle même pas du rodéo et du manque de diversité dans la publicité. On se scandalise collectivement pour la représentation douteuse symbolisée par la couleur de peau des pousseux de chars allégoriques d'un défilé de la Saint-Jean blanc comme neige. Mais où est l'indication nationale quand on emploie démesurément la force contre des individus de la communauté noire dans les stations d'autobus ou lors d'évictions forcées jusqu'à causer la mort? Ou alors quand on remet en doute les paroles des femmes autochtones ou qu'on occulte notre responsabilité dans le dossier des pensionnats? Même la Saint-Jean me laissait indifférente cette année. Comme à Noël, on donne des cadeaux parce que c'est Noël, ou à la fête des mères, on donne des fleurs parce que c'est la fête des mères, à Saint-Jean, on prend une bière parce que c'est à Saint-Jean. On dirait que ces fêtes se sont progressivement complètement vidées de leur substance. Pour citer Jonathan Durand-Folcon, la fête nationale s'est progressivement dépolitisée, le sens du collectif s'est effrité, et la logique sécuritaire s'est renforcée pour prévenir tout débordement festif. Dans le monde actuel qui se caractérise par une perte de sens, un désenchantement collectif, une morosité, voire un cynisme ambiant, les fêtes sont utilisées à coups de millions pour solidifier le mythe national et stimuler artificiellement l'économie, mais l'occasion est plutôt ratée pour solidifier les solidarités sociales. On capitalise sur les anniversaires et le but semble bien être lucratif avant d'être social. Tant mieux si on occulte les scandales de corruption et de colonisation au passage. Les célébrations en 2017 me font sentir comme si j'étais gentiment obligée de jouer dans les structures gonflables, dispendieuses, louées pour l'occasion dans le jardin alors qu'il y a de la grosse fumée noire et épaisse qui s'échappe des fenêtres de la maison. Je dirais en finissant, je suis désolée de briser le party, c'est vraiment pas dans mes habitudes, mais je pense qu'il est vraiment important de saisir de l'occasion pour pratiquer le libre examen et l'autocritique. Qui nous sommes, que célébrons-nous? Voilà des questions importantes pour faire lever le party, mais aussi pour réfléchir à bâtir la société de demain, une société plus inclusive, moins néolibérale. Je constate que je suis pas la seule à ressentir ce malaise et permettez-moi de penser que cette effervescence est surtout une occasion en or de favoriser une réflexion collective sur les questions sociales qui semblent pour l'instant être plutôt reléguées au second plan.
Yeah. Hello, hello. Hello, hello. They wanna know. Come out of hello. Mile alone. I wanna know. Personne pour répondre au fond. Comme hello, hello. Hello, hello. I wonder what they wanna know. Personne pour répondre au fond. J't'appelle, j'entends mon écho. J't'appelle, j'entends mon écho. Comme hello, hello. J'ai manqué ton appel à Rose on the road. And I pop bottles on bottles on bottles. Mais qu'est-ce qu'on fait pas pour le show? J'entends même parler quelques personnes proches dans mon dos. Ils voudraient mon style, ils voudraient mon succès pis mon dos. Ok, man, j'suis un grown up and I gotta keep going. Mais demande-toi pas pourquoi des fois j'suis out of control.
Oh, yeah, I know, I know. J't'ai pas check, je sais, sorry, j'ai des ghosts. J'ai une quête rouac on the road. Stock de tourbus up in smoke. Garage, un mot dans une bottle. Pitch la bottle contre le boat. Konnichiwa on the boat. Mets le cap sur le point des mots. J'pourrais pas dire quand j'vais revenir. J'aime mieux me tenir loin des faux. Soyons pas, j'vais faire le 1 avant de faire mon numéro. Ils disent when it rain it falls. J'te garde une place sous mon umbrella. Hello, hello. Comme hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. They wanna know. Hello, hello. Mile alone. I wanna know. Personne pour répondre au fond. Comme hello, hello. Hello, hello. I wonder what they wanna know. Moi je voulais crier tout haut. Tout ce que j'ai keep on the low. I only want you to know. Hey, nobody home. Sun dancing, sun dancing. Been around the I guess que j'avais juste part of mon nom. Top of the dome. What if I run, run, run and I go make a loan? What if I don't? Ton numéro on the phone, baby, would I be back on gallow? How can I know? Having my dome. Knock on the door. I know you know. Hello, hello.
C'était Allo Allo de Dead Obies. On sait pas exactement à qui il disait Allo tout le long de la chanson, mais on trouvait que c'était une très bonne chanson pour illustrer un peu la dichotomie qu'on a aujourd'hui entre le Canada, le Québec et...
Marie, je pense que ça sonne.
Ok, je suis perturbée. C'était la fin de la chanson, mais je sais pas pourquoi ils ont cette chanson-là, cette sonnerie de iPhone à la fin. Mais en tout cas, on va revenir à nos poules. si c'est ça l'expression, avec Gabriel qui va nous parler un peu plus du statut de la métropole avec les festivités du 375e. On entend parler de Montréal un peu partout.
Oui, tout à fait, parce qu'il faut comprendre qu'on a parlé beaucoup du 150e du Canada il y a quelques minutes, mais comme vous le savez, à toutes les fois que quelqu'un ne parle pas du 375e, Denis Coderre coupe la pension d'un col bleu, donc c'est très important d'en parler. Ou il défonce une dalle de béton à Villeray-Saint-Michel, d'une manière ou d'une autre. Donc oui, effectivement, en fait, la chronique va être en deux temps. D'abord, les élections montréalaises approchent à très grands pas et le maire Coderre va solliciter un deuxième mandat de titre de maire. Il est excessivement bien placé, mais l'opposition se coalise autour de Projet Montréal, ce qui annonce une course à deux. Et du côté du gouvernement Couillard, on annonce un statut métropole pour Montréal. Qu'est-ce que cela veut dire pour les Montréalais? Et justement, un état des forces en présence à 4 mois du scrutin. On commence avec ça. Actuellement, Denis Coderre est toujours le chef de l'équipe de Denis Coderre, cela va de soi. Et il a assuré une mairie très personnalisée, donc vraiment centrée autour de lui-même en tant que bête politique, ce qu'il a toujours fait au fédéral comme au municipal. Peut-être pour deux raisons. D'un, parce que la carte a toujours très bien joué, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de l'équipe de Denis Coderre est celle du défunt Union Montréal de Gérald Tremblay. Et donc, de montrer un peu trop ses conseillers-là, ça n'est pas nécessairement gagnant politiquement. D'ailleurs, je mets au défi n'importe qui de me nommer un conseiller municipal influent de Denis Coderre qui a activement participé à la vie politique cette année.
J'en ai plein à te nommer. Il faut être juste renseigné sur l'actualité municipale.
Moi aussi, je connais Denis Coderre.
Et ça, c'est un autre problème parce que malheureusement, la politique municipale intéresse trop peu de gens, en fait, et ça encourage beaucoup des personnages comme Denis Coderre qui peuvent se maintenir avec des grandes déclarations grandiloquentes comme il le fait. Mais bon, pour revenir à nos moutons, justement, il est maire depuis 2013 et il a joué à très nombreuses reprises la carte du populisme et de la politique publique de réaction. Ce que je veux dire par là, c'est problème, médiatisé, réaction. Pitbull, problème, loi sur les pitbulls. Post-Canada, détruire une dalle de béton dans un arrondissement quelconque. Ce genre de réaction-là, il a toujours très bien profité et ça a été excellent d'ailleurs pour ses intentions de vote. C'est ce qu'il a toujours fait et ça lui profite très bien.
Donc, est-ce qu'on peut dire que dans le fond, la popularité de Denis Coderre est un peu la faute aux médias?
Un peu, oui. La popularité de Denis Coderre est un peu la faute aux médias, mais c'est aussi la faute, justement, comme j'y venais, du peu d'intérêt que les Montréalais ont pour la politique municipale, parce que ça fait en sorte que des candidats d'enjeu, des candidats de politique publique, ont pas nécessairement la même présence médiatique ou la même écoute que des candidats populistes comme Denis Coderre, justement. Donc, actuellement, il est en contrôle de 10 mairies d'arrondissement, la plupart dans les périphéries de Montréal, donc, mettons des arrondissements comme Côte-des-Neiges, Anjou, etc., il est très près de plusieurs maires indépendants aussi, comme Claude Dauphin et Manon Barbe, et donc il rentre dans les élections municipales en 4 mois avec une très très bonne position. À l'inverse, Projet Montréal, contre beaucoup de pronostics, a survécu au départ de Richard Bergeron de manière assez impressionnante et aussi a survécu très bien.
Pour le rappeler, Richard Bergeron est passé de Projet Montréal à indépendant à Denis Coderre, donc c'est quand même étonnant de voir que ses supporters l'ont pas suivi.
Oui, tout à fait. Et tout ça dans un laps très court. Je pense que ça s'est fait sur environ 2-3 semaines à la base, tout ce changement-là. Et avec très peu d'avertissements, ce qui était supposé être simplement une retraite progressive est devenu justement une désertion vers un autre parti. En l'occurrence, le parti, le principal opposant de
l'ancien parti. Je crois qu'il est conseiller.
Il est conseiller de ville dans Ville-Marie, okay. Tout à fait. Puis il est actuellement sur le conseil exécutif en même temps. Et il coordonne certains projets, dont le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie, qui était un peu son projet phare quand il s'est présenté à la base. Donc justement, ils ont aussi survécu à une course excessivement serrante, Valérie Plante et Guillaume Lavoie, qui s'est joué par quelques points de pourcentage, ce qui aurait pu marquer la fin du parti avec une désertion de l'un ou l'autre des partisans de l'un ou l'autre des candidats, ce qui ne s'est pas fait. Contrôle actuellement 4 mairies d'arrondissement, majoritairement dans les arrondissements centraux, nommément le Sud-Ouest, le Plateau Mont-Royal, Rosemont, mais aussi l'île Bizarre, parce que comme Denis Coderre, le projet Montréal a profité de plusieurs départs de conseillers, de maires, de plus petits partis qui avaient été formés aux élections de 2013 et qui ont par la suite été progressivement désertés, comme le Vrai Changement pour Montréal ou Coalition Montréal de Marcel Côté et de Mélanie Joly, respectivement. Ces deux partis-là, actuellement, sont d'ailleurs en déroute financière. Ils ont perdu la plupart de leur tête d'affiche. Qu'il s'agisse de Benoît Doré, Russell Coatman, Réal Ménard, Normand Marianacci ou bien Lorraine Pagé. Ils sont actuellement en recherche à la fois de programmes politiques, mais aussi de fonds, particulièrement Coalition Montréal qui est excessivement endettée, et tous deux ont annoncé qu'ils ne présenteraient pas de candidats à la mairie. Ce qui veut dire qu'on se retrouve vraiment avec une course polarisée entre deux partis et deux candidats, respectivement Denis Coderre et Valérie Plante. Par contre, comme ça arrive souvent à Montréal, il y a toujours la possibilité de l'arrivée d'un candidat vedette, parce que les élections montréalaises sont très prompts à ça. On a certaines personnes de la société publique qui ont déjà fait savoir leur intérêt, dont entre autres Anne-France Goldwater et d'autres noms de ce genre-là. On se prononcera pas sur Anne-France Goldwater.
Très bon livre, je le recommande.
Ça ferait l'objet d'une chronique entière, cette femme-là. Alors donc voilà, on se retrouve aussi avec certains maires indépendants qui ont annoncé qu'ils se représenteraient, dont de Souza et Dauphin. Donc tout ça à suivre pendant 4 mois. Maintenant, pour ce qui est du statut de métropole, c'est un petit peu particulier parce que c'est probablement un des rares projets de loi de la législature actuellement au Québec qui a passé avec très peu d'opposition. En fait, l'idée principale du projet de loi est de, à la fois, décentraliser des pouvoirs du gouvernement du Québec vers les municipalités, vers Montréal en fait, mais aussi de centraliser certains pouvoirs à l'intérieur de Montréal du conseil de ville vers le maire et son conseil exécutif. Comment est-ce que ça s'organise? Par exemple, ce serait maintenant le maire qui désignerait le président et le vice-président du comité exécutif et ce serait aussi la ville qui pourrait constituer tout organisme à but non lucratif qui le désirait pour fournir des services, des avis, des matières, des matériaux, des équipements ou administrer des programmes municipaux. Ce qui était à l'époque la responsabilité du gouvernement du Québec, la ville va même avoir un droit d'option sur ces organismes-là. Il va pouvoir choisir si oui ou non il choisit de garder les anciens organismes que Québec avait créés. Ce qui veut donc dire que Montréal rassemble de plus en plus de pouvoir à l'intérieur d'elle. C'est sûr qu'une municipalité reste ce qu'on appelle en droit constitutionnel une créature des provinces, ce qui veut dire que fondamentalement, elle est là où est-ce que la province la laisse être, mais ça laisse quand même un très grand terrain de jeu, je veux dire. Elle peut toucher à n'importe quelle compétence qu'une province a, que ce soit l'éducation, la santé, la planification urbaine. Donc, il suffisait d'un projet de loi comme ça pour le permettre. Montréal pourrait aussi avoir les pouvoirs nécessaires pour donner effet d'une entente avec les gouvernements et aussi la possibilité d'appliquer à la suite d'une entente de délégation plusieurs projets en culture. Donc, c'est vraiment une très grande décentralisation des pouvoirs du Québec vers Montréal, justement.
Donc, pour clarifier un peu, parce que compte tenu qu'on vient de dire que les Montréalais suivaient très peu l'actualité municipale, le statut de la métropole, comment tu décrirais ça? En fait, comme souvent, on pense qu'il y a 3 paliers de gouvernement. Il y a le palier fédéral, le palier provincial, puis il y a le palier municipal. Sauf que finalement, le municipal dépend du provincial.
Exactement, parce que véritablement, au Canada, il y a seulement 2 paliers. Le fédéral, le provincial, mais par contre, l'une des compétences du provincial lui permet de créer des municipalités pour administrer des pouvoirs locaux d'une manière qui est plus adéquate avec les besoins de la population. De là, la création des municipalités. Le problème, ou
c'est quoi l'avantage ou le désavantage d'avoir un statut de la métropole? Pour nous, genre les citoyens, qu'est-ce que ça change?
Pour les citoyens, en ce moment, ça changera pas grand-chose, d'autant plus que les pouvoirs vont être de plus en plus centralisés autour du maire, donc nécessairement les conseils d'arrondissement qui sont peut-être plus près des citoyens que le conseil de ville vont en pâtir. Mais est-ce que ça pourrait avoir davantage si on le faisait correctement? C'est qu'actuellement, toutes les villes au Québec ont le même statut. Ce sont toutes des municipalités. Si Montréal devenait une métropole, qu'on lui accordait donc les pouvoirs supplémentaires qui venaient avec et les pouvoirs fiscaux supplémentaires, et qu'on assurait une délégation de pouvoir vers les conseils d'arrondissement où les citoyens pourraient se prononcer, ça créerait des leviers de pouvoir vraiment très importants pour le citoyen, quel qu'il soit de Montréal. Cependant, dans sa monture actuelle, oui, Montréal gagne des pouvoirs, mais Montréal, on l'a défini comme étant son maire et son conseil exécutif et non pas ses citoyens, ce qui est un peu toute la clé du problème, justement.
Oui, puis pour me rappeler d'un fameux épisode de Infoman, il nous avait montré en long et en large l'archétype, l'organigramme de la ville de Montréal qui est assez complexe. Avec les fusions qu'il y a eu en 2001, on a pu voir qu'ils ont gardé certaines structures qui étaient dans les villes fusionnées par rapport à la ville centre maintenant. Est-ce que le statut de la métropole viendrait un peu consolider la fusion qui s'est jamais vraiment consolidée complètement?
Ça pourrait la consolider idéologiquement dans le sens où est-ce qu'on aurait l'idée de Montréal comme métropole, mais pragmatiquement, sur papier, ça fait pas une refonte des structures d'arrondissement. Ça va pas permettre une plus grande cohésion à l'intérieur de la ville, à part peut-être sur certains points mineurs. Véritablement, ce qu'on vient faire là, c'est donner des pouvoirs supplémentaires à Montréal sans nécessairement, d'ailleurs, et ça, c'est tout le nœud du problème aussi, donner les fonds qui viennent avec. On n'a pas encore de garantie là-dessus non plus. Mais à l'inverse, on donne ces pouvoirs-là à Montréal tel qu'elle est maintenant. On ne change pas Montréal.
Mais je me demande, est-ce que ça vient, est-ce que c'est venu parce que justement on a un personnage haut en couleur qui d'ailleurs est capable de marcher de la gomme en même temps. Je pense que ce qui est vraiment exceptionnel pour une personne. Mais c'est, je trouve ça incroyable. Est-ce que c'est parce que c'est Denis Coderre qui est au pouvoir que justement il y a eu droit à, on peut dire quasiment que c'est un bonbon, parce que sinon pourquoi c'est pas arrivé avant? Pourquoi est-ce que Québec pourrait avoir ce statut-là aussi?
Mais en fait, je pense que Québec est en train de pourparler pour avoir un peu le statut de la métropole, parce que justement, ils voulaient pas faire un déséquilibre. Mm-hmm. Et si je me rappelle du même épisode d'Infoman, Jean-René Dufort interviewait Mario Dumont à l'époque, qui disait que Montréal est un peu dysfonctionnel dans sa structure. Québec veut garder ça un peu tel quel, puisque Montréal, c'est quand même 3 millions d'habitants dans la grande région métropolitaine, ce qui est à peu près presque la moitié de la population du Québec. Donc, imaginez le maire qui aurait tout le poids de cette population-là. Après, il peut utiliser ça comme lobby pour les pouvoirs politiques. Ça vient changer toute la donne d'avoir un maire fort. Puis c'est un peu ça, je pense, que Denis Coderre est de plus en plus... il est en possession de ses moyens par rapport aux autres administrations qu'on avait avant, parce que depuis 2001, l'île de Montréal est presque ingérable à essayer de dealer avec les arrondissements, avec la ville centre, pas froisser les égaux de personne. Puis on voit vraiment dans Denis Coderre un pouvoir et un désir de centraliser, ce qui fait qu'après ça, quand t'as plus de pouvoir, mais t'es encore plus puissant pour faire du lobby auprès de la province. Puis à mon avis, c'est pour ça qu'on a eu le statut de la métropole, parce qu'il a été quand même se battre pour l'avoir, ce qui n'était pas nécessairement quelque chose que le provincial voulait faire au départ.
Non, tout à fait. Puis aussi, je pense que Denis Coderre, sans être le premier maire à l'avoir demandé, c'est le premier maire qui avait les moyens de ses ambitions. C'est quelqu'un qui arrive avec un carnet de contact au provincial comme au fédéral, assez important. C'est quelqu'un qui a des liens qui sont déjà tissés justement avec ces paliers de gouvernement-là. Et aussi, je pense que ce qu'on observe actuellement à Montréal, c'est que pour une des premières élections depuis plusieurs années au provincial, la carte de l'île peut changer de manière assez significative au profit des libéraux, avec la division Québec solidaire, libéral, PQ dans plusieurs circonscriptions. Donc ça peut être aussi une manière d'aller chercher des gains politiques sur l'île de Montréal pour le Parti libéral que de faire ça. Ou du moins de se débarrasser de certaines responsabilités plutôt encombrantes pour un État qui justement essaie de se désengager de plus en plus des services publics. Ça peut être intéressant de donner un statut de métropole à Montréal pour exactement cette raison-là, pour que ce soit quelqu'un d'autre qui gère certains programmes, certaines OSBL, certains organismes de concertation.
Mais il y a quand même un danger qui est réel de dire, OK, on vous donne plus de pouvoir, mais au bout du compte, si on prend en charge plus de frais, bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais si ça se retrouve avec les Montréalais qui payent pour que Denis Coderre ait un levier politique, je vois pas vraiment l'intérêt pour la population d'avoir ça. Je veux dire, de centraliser les pouvoirs pour qu'une personne ait plus de marge de manœuvre pour débattre, discuter. Je vois pas vraiment l'intérêt pour le commun des mortels, tu sais.
Non, définitivement, parce que là, actuellement, c'est pas une reprise du pouvoir des Montréalais par les Montréalais. Là, c'est une reprise du pouvoir de Montréal
du
par
parti
Denis Coderre.
De Denis Coderre.
Effectivement, c'est lui qui va avoir ses leviers supplémentaires. Là, c'est pas nous.
Ouais, mais en même temps, faut quand même considérer que c'est un peu ça la démocratie. Ben la démocratie, si on la pense de façon verticale, les citoyens de Montréal ont quand même voté pour Denis Coderre au suffrage universel et ont la possibilité de revoter s'ils le désirent en 2017, parce que les élections approchent à grands pas. Là, les élections sont en novembre 2017. Donc, tu sais, à quelque part, ça dépend aussi de notre conception de la démocratie. Est-ce qu'on est plus pour une démocratie qui est participative, qui est en référendum, qui est en fait un litige en ce moment à la Ville de Montréal, puisque l'équipe de Denis Coderre est contre les référendums citoyens par rapport au projet Montréal qui est pour les référendums citoyens. Donc, tu sais, comme toute la vision de la consultation, c'est aussi ça qui va être en jeu au niveau des prochaines élections. Comment on veut décider notre ville?
C'est sûr. Puis aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que oui, Montréal, fondamentalement, on regarde l'organigramme, c'est dysfonctionnel. Il y a des problèmes par rapport à la manière dont on divise les pouvoirs entre les arrondissements et les mairies. Et c'est vrai, quand Denis Coderre définit les maires d'arrondissement comme des rois de lait, il n'y a pas tout à fait tort. Il y a un peu de vrai là-dedans. Par contre, oui, on a une démocratie représentative à Montréal. Oui, on a élu un maire à majorité. Par contre, ce que j'aime de Montréal, bien qu'elle soit dysfonctionnelle à cause de ça, c'est le fait qu'on ait des maires d'arrondissement qui soient forts. C'est le fait qu'on ait des conseils d'arrondissement qui ont un plus grand poids qu'admettons à Toronto ou à Québec, où est-ce qu'il y a vraiment une seule personne qui a tous les pouvoirs. Je trouve que c'est intéressant parce que ça fait en sorte que même si on vote seulement 4 ans, il y a quand même au moins une certaine reddition de compte qui peut se faire au niveau plus local des arrondissements vers la ville-mère. Et moi, ce que je crains avec la loi telle qu'elle est articulée actuellement, le projet de loi 121, c'est que oui, on donne des pouvoirs supplémentaires à Montréal, ce qui est bien, mais on le fasse sans l'argent, ce qui va rajouter à la dysfonction, mais on le fasse aussi sans pouvoir supplémentaire pour les premiers décideurs qui sont les citoyens montréalais, ce qui va à l'encontre de la vision de Montréal qu'il y avait plusieurs maires précédents, dont entre autres Jean Doré ou Pierre Bourque.
Ce fut des réflexions tout à fait intéressantes et on va essayer justement dans les prochaines émissions, surtout à la veille des élections en 2017, en fait, cette année, en novembre, de tenir un peu plus au courant de c'est quoi les sujets de l'heure qu'on doit suivre en actualité municipale. On a parlé des référendums populaires, on a parlé de la réglementation sur les pitbulls, si je ne m'abuse. Le studio est en train de vibrer. Donc ça, c'est des sujets qui vont être...
Denis Coderre arrive.
Oui, en fait, il est partout sur la toile. Donc là, on va prendre une petite pause pour juste conclure l'émission en parlant un peu plus de l'importance des commémorations. Bonjour, on est revenu à la photo média après un beau petit pont. En fait, on va juste conclure l'émission. On a parlé des commémorations des 150 ans du Canada. On a parlé un peu dans la chronique de Corinne du défilé qu'il y a eu pour la Saint-Jean-Baptiste. On a parlé du 375e en surface un petit peu de Montréal. C'est une année qui est chargée en anniversaire, quoi qu'on peut toujours remettre en question l'idée de célébrer le 375e. J'ai eu besoin de l'expliquer à des étrangers qui n'ont toujours pas compris le but de célébrer un 375.
Ah, un 150e aussi, je dirais.
C'est un chiffre plus rond, à mon avis, okay, mais bon. Okay. Donc, je me rappelle justement, pour ouvrir la discussion d'une marche que j'ai prise la semaine passée, je vous la décrirai pas en détail, mais sur un poteau de stationnement, il y avait une belle étiquette qui était marquée « Déniaise 375e ». C'est que, marqué Déniaise 75e, Montréal est une ville créée, c'est pas une ville fondée, a été créée sur la souffrance des peuples autochtones. On voit que la question des peuples autochtones est de plus en plus à l'affiche, en tout cas pour la gauche caviar, comme des personnes aimeraient dire. Mais c'est quand même un sujet qu'on a abordé qui est important. Veux pas, quand on vient de l'extérieur, je peux penser à certaines amies qui sont françaises, quand ils sont arrivés au Québec, ils étaient tout à fait fabulgastés de voir qu'on considérait pas les peuples autochtones comme une certaine forme de colonisation. Un peu à la même manière qu'il y a eu des colonisateurs en Afrique du Sud, que nous, on a colonisé le Canada, mais qu'il restait moins de population. Donc, c'est quoi notre responsabilité quand on célèbre des anniversaires comme le 375e de fondation, comme la 150e du Canada? C'est quoi nos responsabilités par rapport au peuple autochtone qui était déjà là?
On en parlait tout à l'heure de hors d'onde. Justement, une fête, c'est un moment pour célébrer, c'est un moment pour d'unité, pour que tout le monde partage les mêmes valeurs, de dire en fait c'est quoi nos valeurs, etc., etc. Mais c'est aussi un moment de rétrospective. C'est important de se dire comment on peut en arriver là, qu'est-ce qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui. Alors, je pense que c'est vraiment un moment de rétrospective. Après, dans le cas québécois, c'est un peu particulier parce que je crois que pour la question autochtone, on est à la fois le colonisé et à la fois le colonisateur. Ce qui veut dire que on a été colonisé, tout le monde le sait, par l'Angleterre. Et après, nous-mêmes, on a colonisé le nord du Québec, on a colonisé certaines régions, on a fait des réserves, le fédéral a fait des réserves, on a participé, je veux dire, on a notre part de responsabilité, mais je crois pas non plus qu'on devrait se s'auto-flageller jusqu'à la fin des temps pour ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut vraiment aller de l'avant, il faut reconnaître les torts, puis arrêter de dire on reconnaît nos torts et ne rien faire. Ce qui s'est passé récemment dans les réserves autochtones sur les agressions sur les femmes, je trouve que le gouvernement Couillard a dû aller de l'avant encore plus vite et être plus crédible dans sa démarche. Je crois qu'effectivement, il y a des cas à régler. Je crois que c'est des nations distinctes, au même titre que la nation québécoise. Alors, alors il serait temps de leur donner les mêmes titres. Et même s'il faut, si on part un peu là-dedans, ben il faut aller de l'avant là-dessus. Je pense que c'est vraiment important. Puis célébrer, c'est célébrer à la fois les malheurs et la tristesse que l'histoire nous a apporté. Alors je pense qu'une célébration, c'est important là-dessus. Et non juste avoir des chars allégoriques, célébrer oh combien la diversité est présente. Alors je pense que oui, c'est un moment de rétrospection, mais c'est un moment aussi pour se dire où est-ce qu'on s'en va et comment on s'en va là-bas.
C'est sûr, il faut souligner l'importance des peuples autochtones pour Montréal, puisqu'elle est très grande, mais il faut le souligner bien aussi, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours tapé sur les nerfs, que ce soit pendant les Jeux olympiques de Vancouver ou d'autres célébrations, c'est quand on fait venir une trentaine d'Autochtones, on les fait danser pendant deux minutes, on les rush off stage, on fait rentrer Garou pour chanter une chanson, puis on passe au prochain appel, puis on n'en parle plus pendant trois ans. Ça, moi, ça me met à bout de nerfs, parce que à la fois, je trouve que c'est excessivement caricatural, de un, mais de deux, c'est de limiter l'importance à justement ce deux minutes-là dans le spectacle, c'est-à-dire, bon, maintenant, c'est réglé, on a réalisé qu'il existait, on peut mettre le couvercle sur la marmite encore 10 ans, ou jusqu'à ce qu'il y ait une autre personne qui disparaisse dans une réserve, ou un autre acte de violence par un policier, ou un autre suicide de masse. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'énerve beaucoup. Je pense que si on veut le faire, faut bien le faire. Faut déjà commencer par demander aux gens des communautés autour de Montréal, ce soit entre autres les Mohawks, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Comment est-ce qu'ils veulent le célébrer? Est-ce qu'ils veulent le célébrer déjà? Est-ce qu'on est obligé de leur demander venir s'ils veulent pas venir? Et les laisser faire leur contre-célébration aussi. Je veux dire, si on est une ville mature, faut accepter qu'on fasse pas l'unanimité. Si eux veulent souligner le 375e de Montréal en soulignant les exactions qu'ont vécues depuis sa fondation, qu'ils le fassent et qu'on leur laisse un forum pour ça. Et s'ils veulent participer, ben qu'on écoute et qu'on prenne le temps de voir comment est-ce qu'ils veulent le faire, plutôt que les intégrer de la manière que nous, on les perçoit et non pas comment eux se perçoivent dans le cadre montréalais.
Absolument d'accord.
Donc, si je fais un beau petit résumé de notre émission, c'est bien beau commémorer, mais il faut avoir les actes qui suivent la parole, puis il faut surtout être capable de reconnaître qu'est-ce qu'on a fait dans le passé pour pouvoir avancer dans le futur et pas juste prendre l'occasion de célébrer pour une petite bière puis s'amuser. Ça, on peut le faire tous les jours sur une terrasse si ça nous plaît. Donc, c'était notre émission sur les commémorations. C'est un large sujet qui a été couvert un peu partout. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Comment on veut la représenter? Comment on veut la célébrer? Est-ce qu'on veut la célébrer déjà en partant? Et donc, je vous invite, chers auditeurs, pas téléspectateurs, quoique maintenant, on est en Facebook Live, à venir commenter, à nous envoyer des articles pour nous parler un peu de la situation et de votre opinion là-dessus. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook à La Faute aux médias. Et sinon, on va vous laisser en chanson et la semaine prochaine, on vous revient avec une autre émission. Ah, je vous ai même pas présenté. J'ai oublié de vous présenter. Oups. Ouais.
Papa a rempli son radio glaciaire avec la bière. Maman fait des petites sandwichs, pis des petites crudités. Moi j'emmène en masse de camion, pis ma plus grande chaudière. Je salue la tête du voisin qui dépense la SL. J'espère avoir autant de fun que l'année passée. À la plage, à la plage, à la plage. J'ai oublié d'apporter des jeux dans l'auto. Ça fait une heure que j'ai mis des cris d'animaux. Après je vais nommer à haute voix tout ce qu'il y a autour de moi. Un chat, un chien, un cheval, un char, un chevalier. Ça dure jusqu'à ce que papa ralentisse sur le bord de la route. J'ai le choix de descendre ou de me la fermer pour un bout. Cinq minutes après j'ai le goût de parler en anglais. I schnur the fear, the purple, hear the wire talk. Ça y est, on arrive, je vois l'océan à l'horizon. Tout le monde met son maillot, moi je me mets de la lotion. Grand-maman a mis son maillot lila, mais elle se baigne pas.
C'est la première fois que je vois ses orteils, puis j'aime pas ça. Grand-papa a amené sa petite TV à batterie, mais il est fâché parce qu'il pogne pas cher Ibarri. Ben, j'y vais au volleyball dans une équipe de madame. Maman est pas contente, j'pense qu'elle aime pas le volleyball. On s'en va que c'est fini pour aujourd'hui. C'est dommage, mais juste de me faire un nouvel ami. Il est un petit peu plus jeune que moi, puis il est un petit peu gros. C'est drôle, lui, ça y dérange pas de se promener sans maillot. Je détruis mon château de sang parce que je fais pas confiance aux autres. L'année prochaine, je vais le faire plus gros, puis tout en haut de la côte.
La fin de Facebook.